bide à bière et bonne musique. Iron Man.
Iron Man !
À consommer sans pression. De 22h à 23h, Iron Man sur Prune.
Bonsoir et bienvenue dans Iron Malt, l'émission métal de Prune, tous les mardis soirs de 22h à 23h. Je suis John, encore malade, et avec moi ce soir, l'indéniable Antoine. Coucou Antoine.
Salut John, tu vas bien?
Mais toi, mon petit chat?
Bah écoute, ça va très bien.
Et ben nickel, parfait. Et comme personne n'est là ce soir à part nous, c'est Mathis qui sort de sa retraite pour nous faire la réelle. Et coucou Mathis.
Bonjour.
Mais bonjour.
Heureusement qu'il est là.
Heureusement qu'il est là. Et ce soir, pour notre premier invité de la saison, on se fout pas de votre gueule, puisque nous avons en notre compagnie Johan Lenevet, cofondateur et programmateur d'un tout petit festival, pas du tout célèbre, hein, connu sous le nom, l'obscur nom de Hellfest. Vachement original. Hein, il paraît que c'est avec Clisson en plus, je sais pas si tu connais Antoine, toi.
Vaguement entendu parler.
Ouais, vaguement, vaguement. Bref, bonsoir Johan.
Bonsoir à tous.
Comment vas-tu?
Très très bien.
Bon, j'espère que t'es content d'être là quand même.
Bien sûr.
Tu vas rester avec nous une heure afin de répondre aux questions que nous nous posons. Le tout entrecoupé de musique piochée dans les concerts à venir et de chroniques. Et on commence en musique.
Vous voulez vous dire qu'elle aime les choses dégoulinantes de sang?
Non, la musique dégoulinante, t'es con ou quoi?
Ah, la musique, certes. Je prise fort la musique de ce temps.
Et on ne change pas les bonnes vieilles habitudes, puisque c'est toi Antoine qui commence. Alors Antoine, où iras-tu bouger ton boule en ce mois de novembre ?
Eh ben, je vais aller à la scène Michelet.
Un peu pour changer.
Oui, exactement. Et parce que bah, pour cette semaine, bah, au risque de vous surprendre, je suis parti sur un groupe de hard avec un petit fond de blues. Bah, faut autant dire tout ce que j'aime en fait. Ça s'appelle Uncut et il passe donc au Michelet le 18 novembre. Ça annonce une belle soirée puisque ça est accompagné de Beastly, du heavy fuzz rock. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc toujours est-il que je vous laisse découvrir Highway to Cagnes, parce que je pense que c'est vraiment la ville de Cagnes, de Uncut, pour bien démarrer le mois avec Iron Malt.
Come out of the black. It felt like madness.
On vient d'écouter Highway to Cagnes de Uncut.
C'était super bien en vrai.
Et donc, je donc le 18 novembre au Michelet, si ça vous intéresse.
Merci beaucoup Antoine. Il est à présent temps de passer à l'interview de notre invité, Johan Lenevet, c'est parti.
Ne soyez pas intimidés, restez naturel, parlez comme vous parlez d'habitude. Hein,
faut pas essayer à tout prix d'être original.
Allez, et maintenant les choses sérieuses, le dipunch.
Vin qui dit vin, dipunch vin.
T'as déjà vu? Pauvre type en cul.
Pardonnez-moi Robin, je pense que c'est le moment d'interrompre.
Allez, remballe tout ça, mais c'était que vraiment la fin.
Alors Johan, rebonsoir, on va te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es cofondateur du Hellfest et également membre de la programmation. Donc pour expliquer succinctement, quel est le rôle du programmateur du festival?
Bah, je crois que c'est pas très compliqué, tu vois, c'est trouver des groupes.
Succinctement.
Trouver des groupes pour essayer de satisfaire au mieux les attentes du public et puis proposer aussi de, bah, voilà, un peu de nouveautés, des choses qui rassurent les gens également. Voilà, c'est un mix, une sorte d'alchimie qu'il faut trouver, tant bien que mal. Ce qui n'est pas toujours simple, mais parce qu'on peut avoir des certitudes et il ne faut pas en avoir, justement. Mm-hmm. Donc, il faut observer un peu ce qui se passe aussi un peu partout et voilà, essayer de sortir quelque chose qui plaît au plus grand nombre.
Donc, vous êtes trois à la programmation, Ben Barbeau, Hélène Desoulières et toi-même.
Exactement.
Donc, qui s'occupe de quelle scène et est-ce que c'est chacun sa merde ou est-ce que vous prenez quand même les décisions collectivement?
Alors pour les main stage, c'est Ben Barbeau, donc tout simplement. Ensuite, pour ce qui est Altar Temple, c'est Hélène Desoulières. Et donc Warzone et Valais, c'est moi-même.
Donc les meilleures scènes, il faut le dire quand
même. Bah, écoute, c'est gentil. En tout cas, c'est les scènes dont je me sens le plus proche. Même si je m'intéresse aussi aux autres scènes, justement. Et donc, comme tu dis, bon, on arrive à faire un peu de passerelle quand même, quoi. Ouais. Hélène, par exemple, tu vois, elle est très inspirée par les classiques Death, Black, etc. Et elle a un peu moins un œil sur les nouveautés et les trucs un peu plus crossover, tu vois, le Black Death Hardcore, les nouvelles scènes Black aussi, etc. Bon, elle s'intéresse toujours à la Zik, hein, c'est sûr, quoi, mais elle est moins, peut-être un tout petit peu moins attentive, donc du coup. J'échange régulièrement avec elle et je lui propose des choses, des trucs auxquels elle n'aurait pas pensé finalement, tu vois. Et ensuite, ça peut marcher, ça peut pas marcher, tu vois. Il y a plein de choses, mais bon, en effet, il y a des scènes, tu vois, qui méritent d'être présentes aussi justement des artistes en tout cas qui méritent d'être présents sous ces scènes en fait, qui sont donc bien sûr sous des tentes couvertes. Mmh. Et donc, je la conseille un petit peu là-dessus, quoi, sur des trucs auxquels elle ne penserait pas forcément et qui maintenant sont attendus malgré tout par un public de plus en plus exigeant. Donc voilà, après, Ben fait sa sauce, il arrive aussi qu'on échange, évidemment, qui me propose des choses et que je propose aussi également des choses en lui disant, tiens, tu m'aurais pensé à ça, et jette un œil, jette une oreille, en tout cas.
Ouais, ça bosse main dans la main, quoi, quand même.
Ouais, on bosse assez solitaire, mais on n'hésite pas quand même, par moment, à échanger, évidemment. Et voilà, quoi, après, ça fonctionne bien comme ça, on travaille pas non plus totalement chacun dans notre coin, même si on a toute la liberté de faire ce qu'on veut, quand même, quoi. Mmh.
Ça marche. Et est-ce qu'il y a des prérequis pour venir au Hellfest en tant que groupe? Est-ce que, par exemple, il y a des styles ou quoi où vous vous dites non, ça c'est pas possible, ou alors il n'y a pas de...
Ouais, alors après, c'est tout à fait, il y a des sortes de prérequis, entre guillemets, même si au Hellfest, on écoute quand même beaucoup de choses. Nous, on écoute déjà beaucoup de choses et on sait aussi que notre public est assez diversifié. Mais oui, il arrive en effet que sur certains artistes, on se pose la question de savoir si est-ce qu'on va pas trop loin pour programmer tel ou tel artiste ou telle catégorie musicale. C'est pas toujours évident, en fait. Hein, c'est vrai que, surtout je vais prêcher pour ma paroisse, entre guillemets, mais je pense que sur les scènes comme la Valais, par exemple, on peut un peu tout s'autoriser, parce que même si des gens sont persuadés que c'est la chasse gardée du stoner et du psyché, c'est pas que ça, oui, la Valais. Ouais. Justement, c'est une scène où on fait aussi jouer beaucoup de musique alternative. Et ouais, souvent, je me pose la question de savoir si je dois faire ceci ou cela. Et des fois, je tente, ça marche. Des fois, je tente, ça marche pas du tout. Voilà, tu vois. On a fait des incursions dans le hip-hop, noise, des choses comme Horror qu'on cartonnait, et d'autres trucs comme Dalek qui ont été des vrais fours. Hein. C'était plus du hip-hop indus, que j'aime beaucoup personnellement depuis longtemps, mais on a voulu se tenter. Après, bon, je pense qu'il a pas non plus joué le jeu, l'artiste, en faisant un set assez... assez expérimental, personnel. Et je pense qu'à un moment donné, c'est aussi aux artistes de jouer le jeu. Sur, quand tu viens jouer à Hellfest, il faut essayer de s'adresser pas à un public qui est venu te voir dans une salle obscure, hyper pointue. Faut pas oublier que le Hellfest, c'est quand même un endroit en fait où il y a tout un tas de publics différents. Et justement, il faut essayer de se Faut essayer de séduire les gens. Donc c'est sûr que si tu fais un truc hyper expérimental et tendu, ça va pas forcément le faire. Voilà, après, il y a plein d'autres choses, tu vois, auxquelles j'hésite. La colonie de vacances, par exemple, j'y pense comme ça parce que je sais que ça va jouer là, l'année prochaine. Pas chez nous, mais dans le quartier. Enfin, j'ai vu que ça allait rejouer. C'est des formations un petit peu complexes à faire jouer, d'une part, de par la formation avec plusieurs batteries, quoi. Ensuite, savoir est-ce que je vais pas sur une scène musicale où on n'a pas un public qui les attend, parce qu'on est plus sur un public qui va un peu plus dans le mad rock, etc. Il y a pas mal d'impro, il y a de la noise et tout ce que tu veux. Moi, je trouve ça intéressant, tu vois, mais est-ce que ça va intéresser notre public ? Voilà, alors là, c'est des questions qu'il faut se poser parfois. Et comme je te dis, des fois, tu y vas pas, quoi. Voilà, c'est. Et tu tranches, tu prends ta décision en ton âme et conscience, et puis voilà, t'avances, quoi.
Mais justement, tu dis, ouais, en tant que Hellfest, est-ce qu'aujourd'hui, justement, ça rayonne tellement que les groupes viennent plus vers vous que l'inverse ? C'est plus encore vous qui allez chercher, qui allez démarcher les groupes ou ils viennent directement ?
Non, mais il y a quand même beaucoup de... Maintenant, on est tellement incontournable que les agents ou les artistes viennent facilement vers nous. Mais après, il peut encore arriver qu'il y a un groupe qui... c'est de plus en plus rare, je t'avoue, hein, parce qu'on vient vraiment nous proposer tout et n'importe quoi. Donc...
Ouais, justement, il y a quoi ?
Mais il peut encore arriver... tout et n'importe quoi, ça veut tout dire, quoi. Il y a des artistes qui s'imaginent qu'ils peuvent jouer chez nous alors qu'ils sont complètement en dehors des clous, quoi. Mais quand je dis des clous, comme je dis, pourtant, on a vraiment une... Non, je pense qu'on a une latitude qui est quand même assez importante, mais où, non, mais t'imagines pas quoi. Voilà, je vais pas rentrer dans. J'ai pas cité le nom.
Ah, dommage
que, voilà, bien mais il y a des choses quand même assez hallucinantes. Des fois, ils s'imaginent, non, mais t'étais sûr que t'as regardé c'est quoi le festival ou t'as juste piché dans un annuaire de festival et,
au pif, et puis t'as
tapé tout le monde, quoi. Voilà, on sait rien. Voilà, donc. Pour revenir là, oui, ça peut arriver qu'on aille chercher des groupes nous-mêmes, qu'on aille des coups de cœur, des machins, et on va essayer de gratter pour trouver le contact, mais c'est de plus en plus rare. Il faut reconnaître que c'est de plus en plus rare. Et quand on veut quelque chose, on essaie de l'obtenir. Voilà,
c'est normal.
Et justement, en parlant de cette notoriété, moi je vais revenir un peu dans le passé. Comment vous avez fait pour avoir des groupes en fait aussi gros dès le début ? Parce que pour rappel, en 2006, première édition du Hellfest après 3 ans de Furyfest, vous faites venir Motorhead, un des groupes les plus mythiques de la scène métal. C'est quand même. Enfin, moi je me suis toujours posé la question.
C'est pas encore inatteignable, hein, des groupes comme ça. Hein. Tu sais, Motorhead, c'était pas. Enfin, c'est hyper cool, évidemment, tu vois. Il y a aucun doute là-dessus, mais c'était pas encore des gros calibres en fait. Hein, qui faisaient pas des salles si énormes que ça, tu vois. C'est à l'époque, Motorhead n'avait pas des zéniths, hein, donc c'était pas si chaud que ça. Nous, notre difficulté à ce moment-là, au début du Hellfest, c'est qu'on traînait les casseroles du Furyfest, hein, de notre mauvaise association avec des gens pas très bien intentionnés. On avait fait une erreur, aujourd'hui, enfin, on peut dire que ça nous a permis d'avancer et puis d'apprendre de nos erreurs, mais en tout cas, on avait fait une erreur à la fin du Furyfest, et du coup, c'était un peu compliqué de choper des artistes, donc on a dû. S'associer parfois à d'autres producteurs français qui nous ont, entre guillemets, apporté une caution quoi, pour pouvoir commencer à travailler sur un nouveau festival. Puis au bout de 2-3 ans, quand tout le monde a vu qu'on était sérieux, qu'on payait rubis sur ongle, après, à chaque fois, c'est une étape. C'est-à-dire que tu fais venir un artiste assez important, bon, ça te
crédibilise.
Exactement, ça te crédibilise auprès de l'agent qui va t'ouvrir la porte à une autre catégorie d'artistes et ainsi de suite. Et après, après, t'as le chemin faisant, t'arrives à booker les groupes comme Metallica, quoi.
Ouais, okay.
Mais après, ça n'a pas toujours été simple, parce qu'on a eu aussi on aurait pu avoir des groupes comme Maiden plus tôt qu'on les a eus, mais on a bataillé avec des producteurs français qui nous mettaient les bâtons dans les roues, parce qu'on a dérangé beaucoup de monde. Maintenant, on va commencer à déranger de plus en plus de gens, mais on a dérangé beaucoup de monde, donc on a servi de lièvre bien des fois pour Maiden, c'est-à-dire pour... On nous a demandé de faire des offres et puis on savait très bien qu'ils n'allaient pas finir chez nous. Et puis jusqu'au jour, voilà. Et là, c'était quand on a fini par les avoir, c'était la volonté du groupe, je pense, plus qu'autre chose. Et on a pu passer outre tous les barrages et tous les obstacles qui étaient mis en œuvre par les producteurs français, les agents, etc., qui faisaient qui nous considéraient peut-être pas suffisamment pour nous autoriser à faire ce type d'artiste. Okay. Mais maintenant, on a réussi à avoir Metallica. Là, c'est nous qui avons coupé l'herbe sous le pied aux autres festivals français et producteurs. Et donc voilà, moi je pense qu'on est passé dans un dans un voilà dans une autre étape du festival et de notre histoire et qui fait que bah il y a a priori en tout cas plus grand monde qui
oui,
peut
non,
nous
non. Je j'ai pense l'impression.
Sans prétention hein, je dis pas c'est... ça du non, tout parce non, que c'était long hein, je ouais. On n'est pas là pour se raconter jamais on garde les pieds sur terre et on sait d'où vient et on sait par quelle étape on est passé donc et le travail qu'il a fallu fournir pour ça.
OK. Et pour revenir dans le présent, donc toi, tu es à la prog pendant le festival. Est-ce que tu as quand même le temps de voir des concerts des... Ou
Non, honnêtement, pas beaucoup. J'essaie de voir à peu près un concert par jour, un concert ou deux, tu vois, mais je n'y vois pas vraiment forcément en totalité. Et puis, de toute façon, je n'ai pas la tête. J'arrive pas à me mettre bien dedans. C'est rare, tu vois. Sauf peut-être le tout dernier.
Ah, c'est marrant, il a mis soir. Metallica en dernier.
C'est bizarre.
Et voilà quoi. Donc c'est non non c'est pas. Puis après j'ai tout le reste de l'année pour voir des concerts. Enfin moi je bouge encore beaucoup en concert, en festival. Donc j'ai pas trop de.
Il y a pas de regrets
non,
là-dessus.
Non ça va.
Ça marche. Et c'est lequel du coup le concert ou bah du coup maintenant je vais plutôt dire l'artiste dont t'es le plus fier finalement le groupe que t'as réussi à faire venir et que qui t'a le plus scotché où tu t'es dit ouais ça valait vraiment le coup on a bien fait de le faire quoi.
Ah, de par le passé du coup, là, je crois que t'es venu
ça. Ouais, bah, mais... les deux.
Non, bah là, je suis très content d'avoir Social Distortion l'année prochaine. C'était, okay. c'est pareil, c'est comme un... Enfin, c'est un groupe que j'admire beaucoup. Et puis, même si c'est pas toujours bon en live, j'espère qu'ils font un chouette set chez nous. Mais voilà, donc ça, c'est cool parce que pour, la, voilà, pour tout ce que représente le groupe, pour moi, c'est cool. Alors, Social Distortion et par le passé, que te dire, bah, très content d'avoir réussi à faire Rancid aussi parce que c'était compliqué, ils sont pas faciles à avoir. Hein, donc. Et après, ouais, bah, y a plein de choses. Hein. Qu'est-ce que je pourrais te dire encore des petits groupes qu'on a été chercher et qui ont grossi. Merde, ça va pas me revenir.
Pas grave, on le mettra.
Il y en a quelques-uns quand même, je pense, qui ont démarré et puis qui ont grossi un peu. En tout cas, qu'on était content d'avoir eu au départ, pas qui ont grossi à cause de nous, c'est pas le sujet, tu vois.
Non, bien sûr.
Mais on a eu le pif de se dire, bah tiens, c'est cool, on les a eu, puis en fait, finalement.
Ouais, t'as eu le nez creux, t'as eu le nez fin de dire, tiens, ce groupe-là, il est cool, et puis en fait, après.
Ouais, puis que ça, et tant mieux que ça veut dire que, ben ouais, le public a suivi derrière, dans le monde entier, hein, je parle pas ici, forcément, tu vois, mais du coup, voilà.
Donc, c'est génial. Pour l'édition là, qui fut annulée, hein, Rip in Peace, il y avait entre autres System of a Down ou encore The U. Alors ils ne sont pas sur la prochaine affiche. Ouais. Comment ça se passe? Ils ont pris le pognon, ils sont cassés ou bien est-ce qu'il y a une chance de les voir à une prochaine édition?
Bah écoute, je sais pas quoi te dire pour System. Hein. Pour nous, c'était une grosse déception. C'est pas de gaieté de cœur qu'on a dû annoncer qu'ils ne participeraient pas évidemment à l'édition, mais ils ont décidé de pas jouer en 2022, c'est tout.
Okay.
Alors te dire pour qui, pourquoi, je pense que c'est des gens un petit peu fantaisistes aussi. Hein. Je pense que tout le monde le sait plus ou moins. Alors ils ont sûrement des bonnes raisons ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont essayé de pas tourner, donc on n'est pas les seuls concernés. C'est tout quoi. Je sais pas trop ce qui s'est passé à ce niveau-là. C'est vrai que c'est un groupe de chez Hélène, là, et ça a été annulé pour quelle raison? Je n'en sais rien. Par contre, là, je peux pas
Ils viennent de loin, peut-être, je me suis dit. Ils avaient peut-être réussi à caler des dates, et puis là, du coup, ça s'est pas calé.
Ouais, alors je peux pas trop te dire, mais ouais, en tout cas, voilà, évidemment, on sait très bien que ça fait, en tout cas pour System, ça fait c'est un poids lourd conséquent en moins sur le premier week-end, et ça nous fait bien chier. On espère bien qu'on les fera revenir. Il n'y a pas de raison qu'ils ne reviennent pas. Tu vois, à partir du moment où ils acceptent de tourner en juin, à un moment, une année à venir,
il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas de raison. Donc, je ne vais pas te dire que ce sera 2023, 2024. 2023, je ne suis pas sûr. Tu vois. On a déjà avancé en plus sur cette année-là. Donc, on est déjà on est déjà arrivé à bosser sur 2023. Ça paraît dingue, mais il va y avoir du lourd. Donc, ça va être cool.
Putain, on a hâte. En dehors de ça, on va faire une petite pause musicale. Si tu devais nous donner un morceau qui serait ton coup de cœur du moment, ça serait quoi?
Bah là, la semaine dernière, là, j'ai écouté des derniers singles de Def Club, là, un groupe plutôt cool avec des membres de The Locust, de Antichrist, Death Christ aussi, de Planet B et tout ça. Donc c'est des mecs qui ont pas mal marqué aussi musicalement, mes goûts musicaux à une époque, quoi. Donc, et je trouve que là, ils ont réussi à faire un mix vachement sympa, un son bien tendu. Hardcore, noisy, et voilà, je vous laisse découvrir.
Bah oui, on va écouter ça tout de suite. Yeah! Vous êtes toujours sur Prune 92 FM dans Iron Malt. C'était Don't Forget to Leave de Diff Club. C'est vrai que ça tabasse. Hein.
Ouais, c'est court, ça tabasse. Bien tendu, c'est comme nerveux.
Bref, il est à présent temps de passer à notre pause cadeau, puisqu'en fait, il y en a des cadeaux à faire gagner. C'est parti, Mathis Jingle.
J'ai reçu un gros cadeau.
Un gros cadeau.
Que j'ai ouvert aussitôt.
Vert aussitôt.
J'ai trouvé dans ce cadeau.
Je ne l'ai pas entendu encore.
Tu peux lui dire merci.
Merci Mathis. Bref, il y a deux semaines, nous avions dans notre émission live Strange Dusk, hein, qui nous a laissé moult cadeaux offerts gagner. Et il se trouve qu'il en reste, hein, tellement il en reste plein. Alors CD, t-shirt, je ne sais plus exactement ce qu'il y a, enfin il y a plein de trucs. Alors pour gagner, c'est très simple, il suffit de nous envoyer un MP sur notre Instagram. Hein, vous envoyez ce que vous voulez, hein, juste que ça nous donne envie de vous faire gagner le cadeau. Et ça sera, du coup, vous serez contacté. Pour ça, il est à présent temps de passer à notre chronique de ce soir, les reprises en cascade, Mathis Jingle.
Can't you see he's the man? Let me hear you applaud. He is more than a man, he's a shiny golden god. If you think it's time to fucking rock and fucking roll out of control, well then you know you've got to rock the block. You fucking sock, my fucking cock. Cause when you rule, you fucking school all of the fools out of their jewels. Cause if you think it's time to, if you think it's time to, if you think it's time to fucking rock.
Il est trop long par contre, il faut que je change. Et ce soir, je reste dans le thème du Hellfest avec l'un des groupes que j'y ai préféré. Hein, je m'attendais à kiffer, mais pas à ce point-là, avec les vieux punks anglais complètement cinglés, avec leurs bouteilles gonflables géantes qui crachent des confettis. Hein, bref, un gros moment de n'importe quoi. Et oui, je parle bien sûr des Toy Dolls. Hein, et bien, il se trouve qu'ils ont fait une reprise de l'un de mes morceaux fétiches, morceau que j'adore disséminer dans les playlists du boulot pour enrager mes collègues, à savoir I'm Gonna Be, que tout le monde appelle 100 miles, un combo parfait qu'on écoute tout de suite.
When I wake up, yeah, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, yeah, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. If I have up, yeah, I know I'm gonna be the man who's favoring to you. And I would walk 500 miles and I would walk 500 miles to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door when I'm working. Yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When I'm lonely, well I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, yes I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, yes I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yeah I know I'm gonna be the man who comes back home to you.
Be the man who walked 1,000 miles.
Iron Man, brassé depuis 2019.
Voilà, c'était les Toy Dolls avec I'm Gonna Be 500 Miles. Ouais, ils sont appelés comme ça, en un seul mot. Bref, il est temps de retrouver Johan Lenevé pour la deuxième partie de notre interview. Alors, on a parlé programmation, mais tu ne t'occupes pas que de la prog, puisque tu es aussi responsable partenariat et bar. Ça fait beaucoup, non ? Tu te reposes un petit peu ?
Ouais, mais bon, écoute, on aime bien s'occuper.
C'est ça. Il est, voilà, finalement, les concerts l'intéressent pas tant.
Non, non,
c'est
ouais. travail.
Chier au concert.
Et donc, du coup, en tant que responsable bar, tu dois savoir quelle quantité de bière vous vendez à peu près, si vous avez battu des records, des machins, des trucs.
Bah ouais, on bat record sur record. Donc,
tous les ans, ouais.
Je suis très très fier de mes équipes, ouais. Parce que c'est quand même grâce à elles. Donc j'en profite pour remercier toutes mes équipes de bar, toute ma régie bar, puis tous les partenaires, les distributeurs de boissons, les alcooliers, etc. Mais voilà, super équipes de bar qui cartonnent à Donf. Et donc du coup, on a fait 4500 hectos au dernier festival. Bière et cider confondus. On a fait 18 000 litres. Donc 4500 hectos, c'est 450 000 litres. Hein, pour ceux qui sont pas très forts. Hein. Voilà.
Et en pinard.
Et en pinard, on était à 18 000 litres de pinard aussi. Donc ce qui est très très bien. Donc on explose littéralement tous les autres festivals, de très loin les vieilles charrues, même s'ils sont censés être plus gros que nous, on les explose.
Ouais.
Voilà, donc on espère faire 10 000 hectos l'année prochaine, sur 7 jours,
la vache.
Allez,
pourquoi
pas 10 000 hectos, bordel de merde.
Tu dis 10 000 et j'étais là, oui, 10 000. Mais oui, 10 000 en fait.
10 000.
Ce serait énorme, si on les faisait, ce serait énorme. Mais bon, il faut bien se donner des objectifs, tu vois.
On aime bien ça. On y travaillera.
Bref, parlons un petit peu de l'édition de cette année. Comment ça s'est passé la mise en place du Hellfest From Home? Vous aviez prévu ça à partir de quand? Est-ce que vous avez réussi à gagner de l'argent ou est-ce que c'était totalement philanthrope comme projet?
Bah, c'était un projet qui était à la base totalement philanthrope, pour être très clair, parce que on a commencé à réfléchir au projet très honnêtement assez tard, hein, finalement, tu vois, je pense en février là, avec Eric Perrin, donc alias Ricou, notre chargé de communication, et qui est assez doué justement pour tout ce qui est maîtrise des réseaux sociaux et tout ce qui est web. Et donc on a vite pensé par rapport à l'année d'avant en fait à développer quelque chose, de ne pas rien faire comme l'année précédente, mais on avait annulé très tard l'année précédente, c'était à mi-avril. Là, on a annulé en janvier, donc assez rapidement, fin janvier, je crois, si je dis pas de bêtises, on a pensé à faire quelque chose, à proposer une alternative et de pas rester muet, en fait. C'est ça qui est le plus important, c'était d'exister d'une manière ou d'une autre, quoi.
Ouais, bah oui.
Du coup, on a pensé ce projet assez vite et puis on a hésité un moment à le faire payant comme tout le monde le faisait. Et puis on s'est dit la merde, quoi, c'est pas cool. En fait, on va le faire gratos, quoi, tout simplement. On va essayer de trouver des fonds avec les partenaires. Ouais. Et puis, notamment aussi les festivaliers qui voulaient bien participer en achetant du merch. Donc on a développé aussi, c'est vrai, pas mal de merch avec Guillaume, là, chez nous, qui a travaillé là-dessus.
Ils étaient vraiment monstrueux, j'en ai acheté un pour là.
Ouais, je trouve qu'ils ont fait du bon boulot, quoi, franchement. Et ça a bien fonctionné, du coup, le merch a bien fonctionné. Et il y a le CNM aussi, qui nous a filé un peu de thunes, hein, donc, okay. Sauf que tu le sais qu'après, quoi. Donc on savait pas trop, et finalement, on a eu quand même pas mal de ronds, donc on les remercie aussi, hein, parce qu'on a, sur ce qu'on avait demandé, on a eu quasiment la totalité, quoi, donc c'est cool. Okay. Enfin, pas du budget, mais de ce qu'on avait demandé pour, en tout cas, venir financer le projet. Et puis les partenaires, vous avez dû voir aussi qu'on avait fait des recettes de cocktails, que je vous invite à aller voir aussi, mm-hmm. Parce qu'ils sont bien cool, qu'on a fait avec ma pote Marjo. Donc les partenaires nous ont soutenus là-dessus. On a aussi les vins de Nantes qui nous ont soutenus pour faire le documentaire. On a réussi à avoir Philippe Etchebest et puis les inspecteurs Clouseau. Donc voilà, on a bien travaillé dessus pendant quelques temps. On a Arte aussi qui nous a aidé bien sûr sur la partie des lives complets, parce que nous on a produit seul et financé seul les lives de 15 minutes, donc la douzaine de lives. Et puis on a fait donc des concerts complémentaires complets avec en montant une scène, donc ce qui était vraiment un pari assez risqué, parce que ça coûte cher de faire venir une scène de Belgique et de la monter. Ça me paraît assez dingue, en plus, pour faire des concerts sans public. Mais ça fonctionnait, donc en plus, tout le monde est content, parce qu'on a eu des super scores, en tout cas de visionnage, hein, tout ce qu'on a produit, et les gens ont adoré, on a eu des félicitations de tous les côtés, en fait, hein, aussi bien du public que, justement, le CNM, tout ça, tout le monde nous a dit bravo les gars, quoi, vous avez fait vraiment du bon boulot, et tous les gens aussi qui ont travaillé avec nous ont fait du bon boulot, hein, donc... Donc voilà, les gens qui ont développé le site, les techniciens qui ont travaillé avec nous, et puis on a essayé de faire revivre aussi aux artistes, au-delà de ça, tu vois, des moments sympas. Donc tous les soirs, on faisait des petites toffes au bureau, une fois qu'on avait terminé d'enregistrer les artistes, et ils pouvaient retrouver un comptoir dans des conditions presque normales, alors qu'à l'époque, les bars n'étaient pas encore ouverts, hein, je le rappelle.
Ça, c'est la tricherie.
Donc voilà, c'était cool, on a passé des bons moments, et ça nous a fait à tous vraiment beaucoup de bien, quoi.
Ouais.
Je dis heureusement, c'est vrai, heureusement que finalement il était à la maison cette année, vu qu'il a plu.
Oui, c'est ça.
C'est vrai, ça fait 2 ans de suite hein, qu'il y a un temps un peu merdique, hein, le Candy Festival. Donc, ouais, bah, voilà, alors, bah, coup, je ne sais pas comment
ans,
on doit le prendre. Mais...
Tous les ans, on le fait à la maison, ça sera bien. Voilà.
Mais du coup, ouais, je me demandais, les groupes, ils étaient vraiment tout de suite emballés à l'idée de venir là faire des concerts sans public
Alors, quasiment tous, en tout cas pour les groupes français qu'on a contactés, il n'y a pas eu de soucis. C'était vachement plus compliqué pour obtenir des groupes étrangers. Parce qu'il y avait encore des histoires de quarantaine, entre autres. Il y a aussi des groupes qui sont complètement cinglés en fait, hein, qui demandaient des cachets de ouf pour faire des, parce qu'ils ont quand même tous été payés, hein, tous les artistes, hein, et évidemment. Après, voilà, il y a des groupes qui estimaient, par exemple, que si eux réalisaient un live comme ça en streaming payant, ils pourraient gagner beaucoup d'argent, alors que ça marche plus comme ça, quoi. Je veux bien croire que certains artistes qui font des vrais efforts ont bien cartonné, comme BMO, ils ont fait des trucs chouettes et tout ça, quoi. Et ouais, il y a des artistes un peu bâtards qui nous ont menés un peu par le bout du nez, tu vois, et qui nous ont fait croire qu'ils allaient venir, puis au final, qu'ils sont pas venus. Et donc, ça a été la guerre pour obtenir les groupes étrangers qui sont venus donc jouer, là. Donc, finalement, on remercie bien Cryzix, Ginger, Helvetti, c'est à peu près tout, je crois.
C'est déjà pas mal, c'est déjà des belles têtes.
Et c'était compliqué. Je dis, ça, c'était vraiment chaud, quoi. Ouais. Et vraiment, eux, en plus des comportements, bon, bah, ça, c'est le milieu hein, qui fait ça, mais qui sont un peu vraiment moyens, quoi. Tu vois, parce qu'ils demandaient déjà d'être bookés pour 2022 ou 2023, et à partir de là, ils diraient oui. Et puis, en fait, finalement, c'était non. Mais en attendant, voilà, vous avez dit que c'était OK pour l'année prochaine, etc. Enfin bref, c'était vraiment des marchands de tapis pour certains. Donc, encore une fois, je ne citerai pas des noms. Mais... Donc voilà, mais globalement, ça a été facile avec les artistes français. Voilà. Et les étrangers, c'était compliqué à cause des quarantaines et à cause des velléités de certains, quoi.
OK. En tout cas, moi, en tant que festivalier du Hellfest Rome Home, c'était nickel.
Ouais, la sélection
alors,
vous a plu.
Alors, je vais pas mentir, j'ai mieux dormi pendant le Hellfest Rome Home que...
Oui, en plus, c'est vrai que t'es clissonné, toi. Donc oui, c'est vrai que t'as dû mieux dormir.
et du coup, bah oui, voilà, pour revenir quand même à l'édition qui va se passer l'année prochaine, donc qui se déroule sur 10 jours, dont 7 jours de festival.
Ouais.
La ville a dit oui tout de suite. Bah justement, en tant que clissonné, en fait, je me suis posé la question, parce que moi, par exemple, je me demande comment je vais aller faire mes courses pendant 10 jours. Mais
t'as 100 000 métalleux.
Non bah écoute, non, bah honnêtement, il serre les fesses, quoi. Parce que bon, on a un maire qui se positionne pas trop, donc. Enfin, ce qu'il a du mal à comprendre, et comme souvent ce que les politiques ont du mal à comprendre, c'est que tu veux pas plaire à tout le monde. Donc on a derrière nous à Clisson une énorme majorité des gens qui sont favorables au festival, parce qu'ils sont soit partie prenante en étant bénévole ou salariés, ou ils interviennent d'une manière ou d'une autre, ou alors ils reçoivent du public chez eux, et ils gagnent beaucoup d'argent pour certains, parce qu'ils reçoivent beaucoup de gens, ils font payer très cher pour certains, pas tout le monde, mais... Donc je pense que t'as 90% de la population qui est aujourd'hui investie dans le festival, d'une manière ou d'une autre. et t'as peut-être à peine 10%, je pense, qui sont là à râler pour un oui, pour un non, et donc qui bien sûr se font entendre. Donc ils ont exprimé leur mécontentement à la mairie, et la mairie bah, est en panique. Il y a aussi une catégorie de commerçants qui est en panique, une autre catégorie qui va tout faire pour s'adapter et faire en... Après, ça dépend aussi des domaines d'activité, hein, j'en suis bien conscient, mais en tout cas, t'en as certains qui sont prêts à travailler, à adapter un petit peu leur activité au festival, et puis d'autres qui sont tout de suite, ça marche pas, donc il faut des compensations financières, quoi. Donc on est devant des situations où voilà, tout le monde veut des places, tout le monde veut de l'argent, tout le monde veut... Parce qu'on est on est des affreux qui allons plomber le week-end. Non, il n'y a pas que ça. Non, mais voilà, en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui sont très heureux de ça, et une petite poignée, voilà, qui sont mécontents et qui se font davantage entendre que les gens qui sont contents. Mais c'est pareil pour tout, là, sur les réseaux sociaux, on connaît l'histoire, hein. Personne n'exprime sa joie, mais tout le monde exprime sa colère, quoi, voilà.
Par contre, moi, je suis sûr qu'ils sont très heureux, c'est les marchands de caddies. Je suis sûr qu'ils sont très heureux à chaque fois qu'il y a un Hellfest.
Ah, piquez pas trop les canines de nos copains, putain. C'est sympa, les gars, ils font des concerts pour votre gueule et tout. Ils animent tout ça, puis si vous leur volez tous les canines, ils vont pas être contents.
Désolé, je
une petite poignée juste pour les joutes, quoi, mais pas plus, quoi.
C'est ça que j'ai participé à la destruction des canines, je suis désolé.
Et donc, justement, on en parlait. Donc, on sait que le Hellfest a un nombre incalculable d'adeptes, puisque vous vendez quand même 60 000 passes en l'espace de 2 heures. Mais donc, vous avez aussi quelques détracteurs, et ça vous pose pas trop de problèmes, visiblement. Une petite anecdote sur une vieille qui est venue vous dire que vous étiez le malin personnifié ou quelque chose comme ça ?
Ah ouais, bah non, ouais, enfin, oui, il y a plein de petites anecdotes, mais ce qui m'a fait marrer, là, c'est qu'il y a nos amis là, de Provoquer le Fest, ça suffit, là, qui sont constitués en association et qui donc payent des avocats pour nous attaquer au moindre dérapage de qui que ce soit. Donc là, d'ailleurs, on a malheureusement notre régisseur site qui n'a jamais dû répondre à une interview à la con des Inrock qui a dit que oui, qui pensait que voilà, ceci, cela, sur la religion, que c'est pas bien, quoi. Résultat, il est traîné en justice, il est condamné. Donc ils ont que ça à foutre de faire chier les gens, alors que lui, il n'aurait jamais dû parler, simplement. C'est un super régisseur site, il n'est pas là pour s'exprimer. Bon, tout ça pour dire que, bah, en tout cas, ces gens-là sont toujours à l'affût pour nous attaquer d'un côté ou d'un autre et pour nous traîner en justice. Et donc, ils ont fait appel à tous leurs supporters pour leur envoyer des dons. Parce que figure-toi qu'en France, ces associations-là peuvent recevoir des dons et défiscaliser. C'est quand même fantastique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais, tu peux faire des économies sur tes impôts en donnant de l'argent pour que des gens attaquent le Hellfest. Donc voilà où on en est.
Bah voilà, je sais moi qui sais pas quoi faire de tout mon pognon.
Et donc, y a simplement justement une petite mémé ou un petit vieux, j'en sais rien, qui nous a envoyé un chèque. Qu'ils envoient un chèque en pensant écrire à Provoquer le Fest, ça suffit, avec un petit mot d'encouragement pour bien. Et le chèque est arrivé chez nous, quoi.
Et vous l'avez encaissé?
Ça, c'est la question que tout le monde pose. Ah, laisserai le mystère t'aller.
Ah, ça restera la légende, tu vois.
C'est énorme. Ça nous a fait plaisir de recevoir un courrier. Allez-y, faites en sorte que les détruire.
Que ça s'arrête.
Ça s'arrête. C'est assez énorme.
Bref, on parle de la croissance de fréquentation. Est-ce que ça s'est fait d'un coup ou est-ce que vous avez eu un gros groupe que tout le monde voulait, qui a fait connaître le festival, ou est-ce que ça s'est fait petit à petit, hein? Parce qu'il me semble qu'il y a une époque fort fort lointaine, on pouvait acheter sa place en connaissant l'affiche. Ça, c'était il y a longtemps.
Ouais, là, tu pouvais l'acheter pour la deuxième édition aussi cette année. Hein, tu sais,
oui, c'est vrai.
On l'oublie. Mais,
ça devient rare, les moins.
Non, mais bien sûr. Mais c'était exceptionnel. Là. Puis c'était pour marquer le coup aussi. Pendant le non-Hellfest, dire qu'il y a un deuxième Hellfest l'année prochaine. Mais du coup, non, c'était assez progressif finalement. Tu vois, c'est vrai qu'on a commencé le festival avec peu de monde, hein, puisqu'on doit avoir 6-7 000 personnes par jour en 2006. Et ça avait été un peu une catastrophe pour nous, parce que c'était pas du tout ce qu'il fallait. On avait perdu 200 000 euros, c'était un peu compliqué à cette époque-là. Et puis après, petit à petit, on a progressé, on a doublé quasiment l'année suivante en 2007. Hein, et on est passé quasiment, je crois, si je dis pas de bêtises, à 13 000 par jour. Parce qu'on avait vachement misé sur la programmation, un peu moins sur la technique, ce qui a fait qu'avec la météo, ça avait été un peu déplorable comme accueil, mais on s'en est voulu longtemps, on a essayé de se rattraper depuis. Et après, ça fait que progresser, donc je pense qu'il y a eu... c'était naturel, tu vois, à partir du moment où tu as des artistes comme Scorpion, Kiss, etc. Et après, on est passé à Maiden, et en fait, ça a été vraiment très progressif, quoi. Et vraiment, la première année où c'était un peu galère. Et après, c'est monté doucement, mais sûrement, on est passé aux 13, 15, 20 000, 25 000, 30 000, 35. Et puis, oui, aujourd'hui, on a 60 000 personnes jour, en tout cas, pour tout ce qui passe par les billetteries classiques, tu vois. Donc, ouais, ça... Il y a eu le changement de site, quand même, qui nous a permis aussi, en 2012, de passer un cap. Hein, donc, là, c'était assez important, quand même. Il y a vraiment ce cap-là qui a été pas trop mal négocié, hein, parce qu'encore une fois... À la base, on a quitté l'ancien site parce qu'on avait été dégagé par la mairie à l'époque qui avait voulu construire un lycée tout en se débarrassant du festival. Et puis, ils se sont rendus compte que c'était une connerie parce qu'ils allaient se faire plus d'ennuis et d'ennemis et ils allaient se faire reprocher parce qu'ils ne s'étaient pas rendus compte que le Hellfest, déjà en 2011, avait atteint une certaine notoriété régionale, tout au moins, et que c'était pas bien de taper sur le Hellfest finalement, parce qu'on pouvait pas nous reprocher grand chose.
Finalement, ça vous a permis carrément d'agrandir.
Et voilà. Et à chaque fois, ça a toujours été comme ça, en fait. Notre histoire, hein, c'était un peu par. Parce que c'était provoqué par des événements, et on a changé de site parce qu'on a été dégagé, sinon on serait resté plus longtemps sur ce site-là, et peut-être que notre développement a été plus lent. Voilà. Je pense qu'on aurait grandi quand même. Hein. on a quand même la chance d'avoir, tu vois, on a Ben quand même à la tête qui est quand même super ambitieux. Tu vois, son bras droit, mais bon, à un moment donné, faut dire ce qu'il est. C'est quand même lui qui est assez visionnaire et il ne peut pas s'empêcher d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Et pendant ce temps-là, nous, on est une armée un peu à exécuter et à faire en sorte que ça se passe. Ça se passe comme on a envie que ça se passe, mais à la base, il faut quelqu'un qui ait le temps de réfléchir et de se projeter, et il est très fort pour ça. Donc, c'est pour ça que lui, il ne peut pas s'occuper des bars, il ne peut pas s'occuper de toute la programmation, oui. Il ne peut pas s'occuper des partenaires, il ne peut pas s'occuper de la technique. Mais par contre, il prend la décision qu'il faut, tu vois, sur les grands investissements dans lesquels on doit se lancer, et les artistes qu'on doit booker, etc. Donc, c'est une équipe qui tourne bien. Et voilà, on a cette chance en fait de pas non plus perdre trop de temps, parce que notre développement aussi, s'il était aussi vite, c'est aussi, et c'est important de le dire quand même, c'est parce qu'on n'est pas non plus on est toujours en forme associative, que ce soit bien clair, mais on n'est pas à demander la vie à tout le monde, quoi. Au bout d'un moment, il y a un leader, derrière il y a des bras droits, et après il y a toute une armée, et ça avance vite en fait. Et on a ce système de décision qui est très rapide, qui fait qu'on gagne beaucoup de temps, tu vois, on travaille sur des parkings, on va pas passer des années à demander si c'est bien ou pas de se lancer dans des investissements pour aménager des nouveaux parkings, pour accueillir les gens, etc., parce qu'on sait pas si c'est bien ou pas bien pour ceci ou pour cela, on y va, quoi. Et on avance toujours, quoi, à chaque fois qu'il y a une grande décision à prendre, ça va assez vite. C'est ce qui a permis de développer le festival comme ça. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on s'était de notre gueule au tout début, tout, on était un peu la risée dans le monde des festivals les premières années, et puis maintenant tout le monde vient prendre des leçons chez nous, quoi.
Oui, c'est ça.
On a avancé vite,
c'est
quoi.
Ça. Ouais. Antoine, je t'en prie.
Très bien, donc on pouvait pas passer à côté de ça, et je me doute que vous avez dû être déçu, mais donc après sa mort en février dernier, Tonton David pourra jamais venir sur les scènes du Hellfest.
C'est dur.
Vous êtes pas trop déçu,
si,
ouais,
si,
ça va,
dur.
Vous tenez le coup.
C'est dur. Franchement, faire notre deuil, c'était un peu compliqué.
Pardon. Et donc, vous avez des projets dans les tuyaux, une petite exclue pour Iron Mal, des trucs peut-être un peu péri-festival ou...
Non, pas gros. Enfin, bon, on n'a pas encore beaucoup communiqué là-dessus, mais évidemment, on va le faire. On va laisser le camping ouvert entre les deux festivals et le Metal Corner. On va limiter un peu les animations pendant cette période de 3 jours interfestival, parce que on va essayer de ménager un peu les riverains. Surtout les riverains. les équipes, je sais pas si on aura le temps de se ménager un moment, mais on verra après.
Vous allez crever 10 jours.
C'est sûr, je pense qu'on va pas s'en sortir indemne, ça c'est évident. Mais voilà, donc on aura de quoi accueillir les festivaliers qui veulent rester sur place, et surtout aussi, on va travailler aussi avec plein de gens pour proposer des animations à l'extérieur du festival, donc que ce soit sur Tour Clisson, on va aussi travailler avec les commerçants, il y a déjà des commerçants qui ont des idées, ou même sur Nantes, pour inviter les gens aussi à aller voir ailleurs, tu vois, on va peut-être travailler avec les vins de Nantes, pour qu'ils vont peut-être proposer des choses au château de la Frémoire. Après, tu vois, il y a certainement les copains de la station Nuage qui vont proposer une programmation pour une fois pas électro, parce que c'est pas Cotizon, tu sais, qui fait la station Nuage, et ils vont certainement faire des choses un peu plus métal, justement, probablement évidemment Michelet, Ferrailleur, on a discuté aussi avec Little Atlantic Brewery, donc il y aura des endroits, en tout cas à Nantes, où ça devrait bouger, et pour inciter les gens aussi à sortir du camping s'il le souhaite, quoi. On va pas en tout cas, on veut que ça bouge, on n'est pas les seuls, donc c'est cool.
T'inquiète, moi c'est pas grave, j'irai camper sur le terrain d'Antoine.
Reste chez toi, John.
Mais bon, faudra pas oublier de se ménager, parce que 7 jours de festival,
on va être fatigué à la fin.
On faudra pas trop se ramasser la gueule entre les deux festivals pour voir Metallica.
Le dernier en plus.
Ouais, on est des chiens.
Je pense toujours aux copains qui se bourrent la gueule dès la première heure. Ils vont être bien là. Bref, dernière question, la plus importante. Si une émission de radio, jeune et dynamique, souhaite faire une émission spéciale en direct du Hellfest avec interviews, articles de presse, bref, qui cette émission rayonnante et pleine d'entrain doit contacter ?
Tu sais, comme moi, je pense, pas la première fois, il faut contacter Roger Vessier, promo@hellfest.fr, qui s'occupe de l'espace presse et de son organisation, de la gestion des box et compagnie.
Très bien, on fera ça alors.
Donc n'hésite pas.
Merci beaucoup Johan.
Je vous en prie.
De répondre à nos questions.
Merci pour votre accueil.
Avec toute cette joie de vivre. On arrive bientôt déjà au terme de l'émission. Ça avance vite.
Ça avance.
Bref, on va reparler un petit peu des concerts à venir. Pour ma part, je pense me faire violence en allant au Ferrailleur le 6 novembre, ce week-end, pour une soirée sous le signe du Black avec Corpus Diabolis, Cephade, Lunar Tomberfield et bien sûr l'excellent Les Chants de Nil, dont on écoute Ma Doctrine, Ta Vanité.
Et qui va à l'eau des instruits au couchant, c'est les éphèbes et les vieilles. Chérie, as-tu pensé à la bière pour ce soir ?
Mais enfin, très cher, pourquoi donc ?
C'est Iron Mal, comme tous les mardis de 22h à 23h.
De retour dans Iron Malt, on a écouté Ma Doctrine, Ta Vanité avec les chants de Neil, c'était très sympa. On arrive au terme de cette émission, alors j'espère qu'elle vous aura plu. Merci Johan d'être venu répondre à nos questions encore une fois. Merci chers auditeurs et auditrices de nous avoir suivis, merci toute l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine avec un Chili Con Metal spécial Angleterre.
Heureusement, on va récupérer Glenn, il va pouvoir nous prononcer.
On va récupérer Glenn.
Il va pouvoir nous prononcer les noms des groupes à l'anglais, ça va être beau.
Même, ça sera pas le seul anglais de l'émission, on va avoir plusieurs anglais. Donc, ça sera à ne pas manquer. En attendant, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram et Facebook. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions en podcast sur le www.prune.net et Podcast Addict. Juste après, c'est Histoire et musique avec une histoire du rythme. Restez sur Prune 92 FM. On vous laisse avec un son, puisque le 20 novembre, au Ferrailleur sera plus rock que métallisé, car on y retrouve les anciens de Seven Week, les infatigables Head Charger et les copains d'Inglorious Bastards. On écoute tout de suite Running Too Fast. À la prochaine, ciao. I've no time to waste. I don't want to slow down. Yeah, life's running too fast, faster than me.
Générique de merde là, balance ton générique de merde! C'est la fin de l'émission, rentre chez toi! T'es déjà chez toi! Reste chez toi!